RMC.
Les gens d'avoir arrêté d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Nicolas Villas.
Et Jonathan Macardi, et Anthony Quintela, et Kevin Diaz, et ils sont là.
Vinny l'ourson.
Well, Winnie the Pooh, alias Vinny l'ourson. Simone Rovera, come va?
Ciao!
Ciao, buonasera, bonsoir!
Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, Simone Rovera, c'est l'imitateur officiel de Winnie l'ourson en italien. In italien.
Écoute.
D'ailleurs, c'est un peu le quiz qu'on se faisait l'autre jour. Tu sais imiter un personnage de dessin animé, un truc comme ça ou pas?
Non, Winnie. Franchement, non.
Non,
en tout cas, pas comme ça.
C'est-à-dire pas comme ça?
Ça me vient pas là.
Anthony, toi, tu sais imiter quelqu'un?
Je peux faire Donald, je peux essayer,
vas-y. Hey, et toi?
Non, moi je sais pas. J'ai imité les hommes politiques, je crois.
Vas-y.
Fais-nous Asselineau, fais-nous Asselineau.
On n'a pas le droit.
Il y en a un que je maîtrise très très bien, mais.
Ouais, mais t'as pas le droit. Accueillons Fred Hermel également. Salut Fredo.
C'est pas Donald, hein, ça c'est quand ma ligne elle déconne. Hola chicos.
Ça va?
Ah bah, je vois à la télé Madame Gamero qui est très sympa. Avec Kevin,
tu as marqué le premier toujours but. Sur les dossiers, celui-là.
Non, mais ils sont très, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très content pour Gamero, qui a marqué le premier but de cette victoire importante, de Valence dans la Coupe du Roi face au Barça.
Victoire 2-1.
2-1. Et Fred... c'était un match plutôt intéressant.
Faut quand même et Fred, on va y revenir.
Que golazo que marco el Gamero.
Mais c'est pour ça. Gamero a marqué un but extraordinaire. Une frappe sans regarder en plus parce que, il met dans le vent.
Le contrôle. Un petit crochet externe.
Bah, c'est-à-dire qu'il fait un contrôle. C'est son contrôle qui est le crochet, en fait.
Ouais.
Et, il met dans le vent Gaïa, il frappe sans regarder.
Et une bonne patate
et ça passe
à la Gamero.
Sous la barre des buts défendus par Cile Seine. Vraiment, bon match de Kevin Gamero qui finalement a fait le bon choix en rejoignant Valence.
Alors, avant de recommencer par l'Espagne et par cette finale de Coupe du Roi, tiens, on va accueillir Romain, parce qu'on était en pleine envie tranchée de Jonathan Macardi, qui est inquiet pour la AS Saint-Etienne la saison prochaine. Romain est supporter des Verts, il nous a appelé en 32-16, et le voilà en direct dans l'after. Salut Romain.
Salut à tous.
Salut.
Écoutez-moi, par rapport à ce que je vous ai entendu dire sur Saint-Etienne tout à l'heure, je suis assez d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit. Juste sur la fin, vous parliez de l'ambition du club, après qu'on n'était pas très ambitieux, après on finit quatrième face à des budgets comme Monaco et Marseille. C'est déjà pas mal.
C'est très bien.
C'est énorme.
C'est déjà pas
non,
mal.
Non, moi, je parlais
c'est
de l'ambition sur la continuité.
Il y a quelque chose dont vous avez très peu parlé dans la saison. Alors déjà, pour revenir, l'entraîneur des moins de 17 ans, c'est Razi Kneder.
Ouais, voilà.
Et moi, finalement, plutôt que ce soit printemps Sabé, j'aurais peut-être préféré que ce soit printemps Neder, histoire de pouvoir incorporer les jeunes, étant donné que il les connaît depuis 4-5 ans. Ça aurait été peut-être une bonne passerelle pour les jeunes.
Et je surtout, mais t'as des jeunes qui sont très bons.
Vraiment, j'ai été voir tous les matchs de la Gambard cette année. Il y a vraiment un bon potentiel.
Et pourquoi pas? Alors on le voit souvent en Allemagne, on l'a vu avec Klopp, on l'a vu avec Tuchel. Pourquoi pas mettre cet entraîneur dont tout le monde parle à la tête de l'équipe première?
Mais
pourquoi en France on fait jamais ce genre de choses là?
La différence c'est que il est vraiment jeune, Razik. Hein. Ouais. Il a, je sais même pas s'il a la trentaine. Moi j'ai joué avec lui.
Tu sais qu'il a Julian Nagelsmann.
J'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui en club.
Nagelsmann, il est tout jeune.
Par rapport aux Allemands là-dessus, je suis pas sûr qu'on ait l'ouverture d'esprit là-dessus.
Mais il faut que ça change.
L'incorporer avec un mec comme Printemps, ça peut être aussi le bon deal.
Oui, c'est une bonne idée.
C'est vrai, ça peut l'aider aussi.
Ça peut être le bon deal. Après, il y a aussi une chose dont on parle pas dans la saison et qui a
changé. Il a 32 ans, Razi Kneder.
Moi, je suis abonné, je vais à tous les matchs. Il y a quelque chose qui a changé notre saison et personne n'en parle, mais j'en suis vraiment persuadé. C'est le départ de Sennaes qui nous a fait perdre beaucoup dans le jeu, contrairement à ce que les gens croient.
Mais je l'ai toujours défendu.
Et il nous a beaucoup apporté depuis un an et demi. Et c'était vraiment quelqu'un qui était très complémentaire avec Mvila. Donc du coup, et quand on a perdu lui, on a vraiment perdu la construction vers l'avant, du jeu direct vers l'avant.
Ah mais alors ça, on l'a répété dans l'after, t'inquiète pas.
Franchement, et ça c'est le tournant de la saison. Et c'est là qu'on a manqué
l'ambition.
Il y en a un deuxième. Part pas à la trêve. Quand t'es placé comme t'es placé, ton groupe il est en place. Tu fais pas partir un mec comme ça à la trêve. Quoi.
Et l'autre tournant, c'est le fait que Berisch reprenne sa place dans le 11 et que Johnny ne joue plus.
Ouais, mais ça, enfin, vous parliez de Ventier tout à l'heure qui part, mais Diony, c'est une des bêtises de Ventier, hein.
Exactement.
Une parmi tant d'autres en attaque, hein. Donc, enfin, personnellement, il y a des gens, je regarde pas qui partent.
Juste pour revenir sur
et nos, présidents, c'est la même, hein, parce que là, on passe encore pour des truffes. Et faut arrêter de croire que Gasset il part parce qu'il est fatigué. Gasset il part parce que ça fait 3 mois qu'il parlait plus à Romélier, 6 mois qu'il parlait plus à Paquet, et qu'il sent que les mecs, en fait, le club, il est pas à la hauteur de Gasset.
J'allais dire juste sur Selnaes. Selnaes, il est parti parce qu'il voulait partir aussi.
Aussi.
Oui, il a une grosse propagande de Chine.
Après, je suis sûr que tu. Alors Selnaes, faut savoir qu'il touchait 50 000 euros par mois. À côté de gars qui en touchaient 200 ou d'un Diony qui en touchait 90. Petit Selnaes, à 24 ans, tu lui affichais un petit salaire à 110, 120. Au moins, tu lui mettais du beurre dans les épinards et il restait.
Ça aurait été mérité parce qu'on n'a pas, je pense dans l'émission on l'a fait, mais l'importance qu'il avait dans le jeu Stéphanois était primordiale.
Pour le coup.
C'était un de mes joueurs préférés de
l'histoire. En plus, 3 mois avant de partir Selnaes, il nous fait un appel du pied en disant qu'il veut prolonger le garçon. Donc je veux dire, il nous tend la perche. Donc après, il veut se barrer. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il n'est pas respecté. Et il se dit, je suis pas respecté à ma juste valeur, je me casse.
Voilà. Il y a eu beaucoup d'accompagnements après, avec Benacer qui a pas forcément apporté toutes les satisfactions.
L'affaire Gasset, là, je vous le dis, printemps, il faut qu'il reste parce que c'est peut-être le seul mec qui pourra faire rester des Mvila, des Caseries parce que le groupe est bien. Mais quoi qu'il arrive, la perte de Gasset, c'est pas la perte que de l'équilibre de groupe qu'on a, c'est que tu perds le réseau de Gasset. Et le réseau
De Buchy, Mvila et compagnie. Hein?
J'ai pas entendu.
Debuchy, Mvila, qui les fait venir? C'est Jean-Luc Gasset.
Ah ouais, Debuchy, Caseries, Mvila, ça vient parce qu'il y a Gasset, hein.
Exactement.
Faut pas rêver, hein. Subotic, même si ça a été nul en fin de saison, mais je veux dire, c'est quand même un nom, quoi. Subotic, c'est un mec qui a fait la finale de Ligue des Champions. Après, le souci qu'on va avoir, et j'espère qu'ils vont pas faire cette connerie, c'est de vendre le petit Saliba. Parce que croyez-moi une chose, le petit Saliba.
Lui, c'est le préféré de Pierre Ducrot, lui.
Ouais, non, mais il a.
Non, mais moi, je vous le dis, les gars. On en reparle dans 2 ans. Et vous verrez, c'est pas du lourd, c'est du très très lourd.
Mais là c'est du hyper
c'est
bien
du futur Varane. Je vous le dis, je l'ai vu jouer.
Ouais,
j'ai jamais vu
un gamin de 18 ans. Attends, et en plus surtout, t'as Saliba, t'as fait signer Moukoudi, qui est un super défenseur, hyper prometteur.
Thibaut Abois avec l'équipe là, qui a gagné la Gambardella, qui est hyper fort aussi. Ils ont du talent. Et là, je pense qu'on a vu cette année l'explosion de Saliba et d'Arnaud Nordin. Et je pense que l'année prochaine, ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore 2-3 jeunes qui s'imposent en équipe première.
Ouais, merci en tout cas Romain d'avoir été avec nous.
Oui. Ouais, j'allais dire c'est toujours le même problème hein, dans les clubs français, c'est l'ego des personnes qui sont à la tête des clubs qui arrivent pas justement à se mettre en retrait pour laisser la place aux gens qui sont vraiment compétents.
Parce que parce que on peut dire ce qu'on veut d'eux, mais Romélière et Cagliazzo, s'il y a bien des présidents qui aiment leur club et qui ont mis de la thune dans le club, c'est eux.
Et pourquoi ils proposent pas le poste de directeur sportif qu'a proposé Montpellier à Gasset?
Parce que à partir du moment
ils veulent pas se mettre en retrait. Ils savent qu'ils ont pas les compétences, mais ils veulent rester quand même en place.
Il y avait Dominique Rocheteau.
Ils s'entendent pas entre eux non plus visiblement. Il y avait Dominique Rocheteau.
Donc ils mettent pas le. On est d'accord que quand même Gasset ce serait le mec. La personne sur qui Saint-Etienne pour investir sur les 3 prochaines années.
Ouais, mais
pas en tant qu'entraîneur, parce que on sait qu'au quotidien, être entraîneur, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Attends. Mais directeur sportif, quelqu'un qui a le réseau, quelqu'un qui connaît le football, quelqu'un qui connaît l'entraîneur qui serait Ghislain Printemps, ça serait quand même les solutions qui sont les plus claires et les plus simples. En tout cas, est-ce qu'ils lui ont proposé?
Non,
mais est-ce qu'il aurait voulu bosser avec peut-être un dirigeant avec qui il s'entend pas très bien non plus?
Il parle plus à Paquet, il parle plus à Romélière.
C'est pour ça que je dis que les dirigeants veulent pas mettre leur ego de côté et leur ressentiment pour mettre un gars qui serait quand même le meilleur à la tête de ce club.
Merci en tout cas à Romain, supporter des Verts, d'avoir été avec nous.
Romain.
On bascule à l'Espagne. Finale de Coupe du Roi ce soir, mon frère Dermel. Et Valence s'est imposé 2-1 face au Barça. Le Barça qui avait remporté quand même les 4 dernières éditions de cette Copa del Rey. Et du coup, ça revient à Valence. Alors, est-ce que t'es surpris ou pas déjà, toi, Fredo, par ce résultat?
Non, pas du tout. Pas du tout surpris, parce que le Barça s'en foutait de cette finale. La déconvenue à Anfield a été telle, l'objectif, c'était pas la Coupe du Roi, c'était la Coupe aux grandes oreilles. Et quand on a appris que même en cas de victoire ce soir, le Barça n'aurait pas organisé de fête demain et que les joueurs seraient partis, même pour certains ce soir directement de l'aéroport de Séville, parce que le match s'est joué à Séville, vers leurs vacances, on a bien vu que c'était pas un titre majeur pour eux. Donc, vu cet esprit-là, on se disait que ça ne pouvait pas fonctionner. Et c'est vrai que Valence est bien mieux rentré dans la rencontre. Alors, donc, but, le Barça a été mené 2-0 par Valence, but de Gamero, but de Rodrigo, et c'est Messi qui a réduit le score en deuxième période. Mais dans les duels, surtout en première période, on avait des joueurs valenciens qui étaient à fond. Et devant, on avait des footballeurs du côté du Barça qui étaient là parce qu'il fallait bien jouer le match. Et à un moment, le haut niveau, une finale, ben c'est aussi celui qui a le plus d'envie qui la remporte. Donc c'est finalement assez logique de voir les valenciens gagner cette Coupe du Roi. Et c'est aussi, je pense, la leçon qu'ont apprise les propriétaires qui viennent de Singapour, qui avant, vous vous souvenez, à Valence, changeaient l'entraîneur tous les 3 mois. Ils ont engagé, il y a 2 ans, un type très bien qui s'appelle Matteo Alemany, qui était l'ancien président de Majorque, qui est directeur général de Valence. C'est vraiment un mec de football. Il a soutenu son entraîneur. Vous vous souvenez, Valence était très mal avant Noël, hein.
Bah ouais, on avait parlé, c'était relégable même quasiment.
Mais c'était relégable. Ouais. Ils ont soutenu leur entraîneur. Ils font 4e de la Liga, donc qualifié pour la Ligue des Champions.
C'est dingue, hein.
Ils font demi-finale de Ligue Europa et ils gagnent la Coupe du Roi. Eh ben voilà, quand on est patient avec un bon entraîneur comme Marcelino, eh ben on arrive à gagner des titres. Donc c'est une saison absolument fabuleuse pour Valence. Et Fred, c'est une saison très décevante pour le Barça, bien entendu.
Fred, moi j'ai une question quand même, parce que il y a quand même un parallèle à faire, même si on sait que ce soir il faut faire attention avec les comparaisons, mais il y a quand même un sacré parallèle à faire. On critique ici en France, et à raison, mais le Paris Saint-Germain sur les choix, sur les différentes remontadas, sur l'état d'esprit, mais quand même la saison du Barça, elle ressemble un peu à celle du Paris Saint-Germain. Grosse déconvenue, remontada face à Liverpool, derrière ils perdent la coupe à la surprise générale. Et comment est-ce que les observateurs en tout cas les Catalans, hein, ou voire les Madrilènes, mais observent et analysent un peu ces saisons du Barça, qui, on sait maintenant, est un club qui a beaucoup d'argent, mais on sait que dans le vestiaire, c'est jamais facile, entre entre les pro-Griezmann, les anti-Griezmann, ceux qui sont avec Luis Suárez, ceux qui veulent la venue de
l'entraîneur aussi, Kevin.
L'entraîneur, oui, pas voilà. L'entraîneur, c'est quand même un club, club qui connaît quand même énormément de remous.
Oui, le président a confirmé l'entraîneur il y a quelques jours. Là, c'est de nouveau une finale perdue. C'est compliqué. En considérant que la demi-finale contre Liverpool était une sorte de finale. Voilà, c'est un match important qui est encore perdu ce soir. C'est vrai que Valverde est quelqu'un qui n'était protégé que par des résultats, puisque le style de jeu n'est pas celui que veulent les gens à Barcelone. Donc non seulement ça joue pas très très bien, mais en plus ça perd. Donc là on peut imaginer que même si Bartomeu, le président, a confirmé cet entraîneur à son poste, la question de l'avenir de Valverde va énormément se poser dans les prochaines semaines. C'est vrai que le Barça, ils ont peut-être un peu claironné trop vite cette saison, que l'objectif était le tripleté, c'est-à-dire la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Ouais. Ils auraient pu le faire puisqu'ils font ils gagnent la Liga, ils font demi-finale de la Ligue des Champions et ils font la finale de la Coupe du Roi. Mais en cette fin de saison, il n'y a qu'un titre et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent.
Est-ce qu'on parle un peu de confort de...
En fait, non, mais
est-ce qu'on remet un peu en cause des choses?
Cette équipe, alors, en fait, elle est en fin de cycle. La fin de cycle,
Piqué fait une belle saison, Fred, mais est-ce que tu pourrais aujourd'hui m'assurer que Piqué l'année prochaine il fait la même saison que celle-ci?
Non, mais personne peut l'assurer.
Voilà.
C'est pourquoi ils veulent
bosser. Le haut niveau, c'est quand même la régularité.
Non, mais le problème n'est pas Piqué.
Non, mais Piqué ou d'autres.
Le problème, c'est que Neymar n'a pas été remplacé. Le problème, c'est que, alors, mon avis, il n'y a pas d'autorité dans ce club.
Oh bah décidément, c'est vraiment ça rappelle quand même le PSG.
Je vais vous dire pourquoi. Vous trouvez normal que Luis Suárez ce soir soit en tribune, parce que Monsieur Suárez, après la déroute de Liverpool, a décidé de faire une arthroscopie pour faire nettoyer son genou
pour la Copa.
Je te rassure, il y en a d'autres ici, ils sont déjà au Brésil, hein, donc.
C'est pareil. Ouais. Mais il a fait une arthroscopie pour arriver bien en forme à la Copa América. Alors.
Ouais, mais moi, ça,
Fredo, il y avait un titre ce soir.
Fredo, moi franchement, j'ai du mal à croire que Suárez puisse faire ça sans avoir l'accord de ses dirigeants.
Oui. Mais le pire, c'est qu'il a l'accord. Mais il n'y a pas d'autorité. Qu'un vrai entraîneur qui est puissant dit, non.
Il a qu'à dire non, alors.
Ah oui, mais il a pas dit non.
Je vais encore faire descendre.
Mais parce que Messi a dit, parce que le patron, c'est Messi. Tout se fait avec l'accord de Messi. Et ça pose un problème. Un joueur ne peut pas être le patron d'un club. Il y a un président qui s'appelle Bartomeu, qui ne dirige pas ce club.
Mais si, Fred, t'es d'accord avec moi si je dis que c'est l'émir du Barça?
Non.
Non, mais dans le sens où il décide de tout.
Mais du coup, on sait que Messi c'est le patron et comment il a vécu lui cette fin de saison et qu'est-ce qui, si tu me dis si l'entraîneur il a été conforté, c'est forcément que Messi il a eu son mot à dire.
Bien sûr.
Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine? Est-ce que Messi, je sais pas, il a demandé des joueurs? Est-ce qu'il
veut garder le coach? Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Messi, il s'est exprimé comme capitaine hier. Il ne l'avait pas fait depuis la déroute à Liverpool. Il a reconnu que le match avait été lamentable, que ce n'était pas le vrai Barça qui avait joué là-bas. Il a montrer un semblant de motivation pour ce soir, mais ça n'a pas été suffisant. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter parce que Iniesta n'a pas été remplacé, Xavi n'a pas été remplacé, Neymar n'a pas été remplacé.
Il arrive le remplaçant d'Iniesta quand même.
Ouais, mais Fred, tu sais, cette équipe-là, le vrai problème de cette équipe-là, c'est qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs et il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été loupés. Et que t'as perdu
pour l'instant Coutinho, pour l'instant Dembélé.
Voilà, mais et surtout, t'as une équipe qui est quand même vieille. Il va falloir penser à renouveler des mecs qui sont des monuments dans ce club-là. Busquets 30 ans, Rakitic 31 ans, Suarez 32 ans, Piquet 32 ans, même Jordi Alba 30 ans. T'as une équipe avec beaucoup de trentenaires.
Oui, c'est vrai.
Et t'as eu moins de flair dans le mercato et surtout la Masia irrigue moins qualitativement l'équipe première.
Alors c'est pas qu'elle irrigue moins, c'est que
j'ai dit qualitativement, Fred.
Non. Mais c'est-à-dire que la Masia, elle fonctionne très bien aujourd'hui. En plus, c'est pas la Masia, parce que c'est la Quintela. La Masia, c'est la résidence des joueurs qui viennent de l'extérieur. C'est la Quintela. La Quintela du Barça a fourni une génération qui n'arrive qu'une fois dans l'histoire.
Ouais.
Voilà. Ce qui n'était pas normal, c'était tous ces joueurs extraordinaires. On a vu une fois. Ouais. En même temps, c'est-à-dire que quand tu produis Xavi, Iniesta, Busquets,
Messi,
voilà, en même temps, enfin, c'est un truc de fou. Donc là, on est revenu à une certaine normalité où, en gros, tu as un joueur par an qui sort et qui peut jouer en équipe première, ce qui est tout à fait logique. Mais à un moment, on pouvait même jouer avec 11 joueurs issus du centre de formation. Donc, le Barça, qui a beaucoup puisé dans cette génération extraordinaire, a dû ensuite réapprendre à acheter et ils ont fait de graves erreurs. Je pense que Dembélé va finir par réussir au Barça, mais Coutinho, on sent que ça marche pas. Voilà. Après, tu prends Arturo Vidal. Moi, je comprenais Valverde quand il a acheté Vidal pour les matchs de combat, etc. Et ça n'a pas été le pire contre Liverpool.
Mais
c'est pas un joueur ADN Barça. Voilà. Donc y a une vraie réflexion à mener. Et c'est toujours comme au Real. Hein, c'est à travers l'échec que tu te poses des questions et que tu changes ta politique.
Mais là, Fred, le problème, c'est que ça va être, vu tout ce qu'ils ont gagné, vu tout ce que ces joueurs-là ont représenté pour le Barça, le renouvellement, il va être difficile.
Ah, mais bien sûr.
Tu te sépares plus difficilement de ce que t'as aimé.
Ah, bien sûr.
Alors qu'il faudrait vraiment renouveler l'effectif de fond en comble, tu vois, réécrire une histoire, ne pas se planter,
c'est dur de mettre dehors. C'est dur de mettre dehors quelqu'un comme Busquets qui a été essentiel dans tous ces titres. L'année où ils font le
il gagne sa titres. Carrière d'ailleurs, sachez-le. Hein.
C'est officiel. Oh, dire la collection.
Non, mais voilà, transition toute trouvée. il a annoncé aujourd'hui qu'il annonçait sa carrière. Non, je déconne. Il arrête pas sa carrière. Il quitte Fenerbahçe, pardon, lapsus. Sans jeu de mots d'ailleurs encore.
C'est moi qui suis lourd.
Il quitte le Fenerbahçe. Il est en fin de contrat, 36 ans. Voilà, il cherche un nouveau challenge, Mathieu Valbuena. Tiens, juste Fredo, j'aimerais qu'on accueille Abdou parce qu'il est supporter de Valence et il était au stade ce soir. Il a assisté à cette victoire de Valence ce soir face au Barça en finale de Coupe du Roi. Salut Abdou.
Salut les gars.
Salut Abdou. Salut Abdou. Bravo. Bravo.
On l'a fait. J'étais en tribune de presse avec Pacopoli, c'est un ami à toi qui te connaît également.
Modienne.
On est super content là, honnêtement. Franchement, gros match aujourd'hui.
Vous en aviez plus envie que le Barça.
C'était une victoire en finale contre le Barça. Bon, c'était une frayeur à la fin du match parce qu'il y avait quand même Guedes qui avait la possibilité de tuer deux fois le match. Il a raté deux grosses occasions.
Ouais. Au final, il a même raté alors qu'il n'y a pas de gardien.
Ouais.
Parce que le gardien était monté pour.
Parce qu'il est fermé, c'est tout.
Ouais. Parce que le gardien, s'il le saigne, il était monté sur le dernier corner et c'est vrai qu'il a manqué. Bon, il était un peu loin pour tirer, mais enfin, il a quand même manqué le cadre deux fois.
Mais bon,
mais c'était beau quand même.
Toujours obligé de souffrir, donc c'est la victoire, elle est belle. Et honnêtement, on n'était pas favori pour cette finale, mais il y a eu une grosse solidarité d'équipe. Il y a eu un gros bloc défensif. On a joué en contre, il faut dire ce qui est. Et ça nous a réussi. Honnêtement, un gros match de Coquelin, il faut le signaler, parce que Coquelin, il a fait un match énorme.
Et Vasse encore, toujours bon. Hein. Vasse aussi très bon.
Ouais, Daniel Vasse. Ah, lui, et puis ouais, Gamero, quand même.
Bon, il était aussi à Evian. C'est quand même dingue qu'un club, un gros club français l'ait loupé, quoi.
Fred Guedes, il a été bon ce soir ou pas?
Moi, je trouve pas.
Bah, pour. J'ai pas trouvé excellent, excellent.
Il s'est battu. Il s'est battu. Ouais, voilà. Il s'est battu, il a terminé exténué, mais je trouve que c'est quand même une énorme déception par rapport à ce qu'il avait montré à ses débuts. Mais j'insiste.
Mais il a du mal depuis qu'il est revenu de blessure aussi, Guedes.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Il a beaucoup, beaucoup de mal.
Il était absent pendant plusieurs semaines, il a eu beaucoup de mal. Mais Gamero, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est merveilleux parce qu'il met des buts importants, Gamero, pour Valence. Dans cette Coupe du Roi, il y a une bonne partie qui revient à Gamero. Il a marqué des buts essentiels, notamment lors de la qualification contre le Bétis. Il a donné des passes décisives. C'est un gars qui a un vrai mental et je pense qu'on ne met pas assez en valeur en France le talent et le travail.
Il fait une belle carrière en Espagne.
Le mec en Espagne, il a fait Séville, Atlético, Valence.
Ouais. C'est quand même ça de la gueule.
Il a gagné trois Ligues Europa. Là, il a gagné la Coupe du Roi. Non, 4 Ligues Europa parce qu'il a gagné l'an dernier avec l'Atlético.
C'est vrai qu'il est pas dégueu son palmarès.
Non, non, attends, mais pour un joueur,
il y en a un qui suit sa trajectoire, c'est Lacazette, hein. Des buteurs français qui
d'ailleurs il suit sa trajectoire en équipe de France aujourd'hui aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y va pas.
Exactement. Il suit sa trajectoire dans le sens où il va pas en équipe de France.
Et même les années à l'Atlético où c'était compliqué, il jouait pas beaucoup, il a quand même des buts importants. Hein.
Mais oui, et puis il a un bon esprit. En plus, c'est pas le mec qui se plaint, il travaille. Mais bon, il était un peu déçu. Il pensait que Simeone lui donnait un peu plus de temps de jeu. Et le temps de jeu, il l'a à Valence. Parce que Marcelino avait voulu faire venir du temps où Marcelo Cassatora, l'entraîneur, était à Villarreal. Ouais. Et donc, il y a un vrai contact. Il y a un vrai lien entre ces deux-là. Voilà, et ce soir, titulaire en finale à la Coupe du Roi, il marque le premier but. Voilà, c'est une très belle carrière que celle de Kevin Gamero. J'en suis ravi parce que c'est vraiment un bon mec en plus.
Abdou, merci d'avoir été avec nous.
Bravo Abdou.
Bah merci, on va placer la fête maintenant et à vous de Valencia.
Salut Abdou.
Salut.
Alors on va expliquer Amout Valencia, c'est ça. Ouais. C'est en valencien.
Voilà. Elle est quand même incroyable, la saison des anciens parisiens. Entre Lo Celso, bon alors Guedes il a pas été bon toute la saison, mais alors Gamero qui est aussi Lucas, c'est quand même incroyable. Les joueurs quand ils quittent ce club, il aurait pu manquer que Pastore joue 60 matchs cette saison. Et il y avait vraiment une malédiction avec ce club. C'est quand même.
Alors, ceux qui viennent sont pourris et ceux qui partent ils réussissent. Ouais. C'est magnifique.
Matuidi, c'est pas trop facile de.
Ah Matuidi c'est pas mal non Simone.
Matuidi aussi. Matuidi c'est bien quand même.
Ouais c'est pas mal. C'est pas mal.
Il gagne en tout cas.
Régulière.
Bah ouais. Gagne, c'est sûr.
Bon, Rabiot l'année prochaine, il gagne la Ligue des Champions, c'est ça?
Il est en finale,
si bien au Real, ouais.
Fredo, merci beaucoup.
Ciao.
Adios, Ticos. Donc, saison, ils se répartissent. Le Real a gagné le Mondial des Clubs. L'Atlético a gagné la Super Coupe d'Europe. Le Barça a gagné la Liga. Et Valence a gagné la Coupe du Roi.
Bravo. Voilà. Bah, bravo, mon pote.
On partage ça avec tout le monde. À demain soir dans l'After. À lundi soir dans l'After, les amis.
Bonne soirée, Fredo.
Ciao,
bisous.
Adios.
Ciao. Merci, Fredo. Dans quelques instants, on filera en Italie. Avec. Mais on va écouter voir ce que c'était.
On a pas trouvé Vinnie Vincent, là.
Ah oui. On l'a déjà fait. Lundi.
Et alors, c'est ressemblant ou pas?
C'est quoi, Alban, il va nous le retrouver pour tout à l'heure. Pendant quelques instants. L'After revient dans quelques instants. Avec Simone Rovera. Avec Jonathan Maccardi, Kevin Diaz, Anthony Quintela et Winnie l'Ourson en italien. A tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Jonathan Maccardi, Kevin Diaz, Anthony Quintela et Simone Rovera.
C'est la dernière demain. Ça fait peur, hein. Ça finit la saison. Ah, vraiment, qu'est-ce que t'as?
C'est vrai. Dernière journée de Serie A demain. Alors, qui a commencé aujourd'hui d'ailleurs.
Ça me manque, pas en même temps. Hein.
Ouais. 0-0 entre Frosinone et le Chievo, les deux sont relégués.
Ouais.
Et ce soir, la Bologne a battu le Napoli 3-2.
Et on n'arrive pas dans le jeu. Relégué, c'est sur les derniers matchs dans la saison, t'as rien à jouer, elle arrive à faire 0-0.
C'est dire le niveau.
C'est-à-dire que tu as vraiment rien montré cette saison.
Alors, il y a pas mal d'enjeux dans cette dernière journée, puisque course à la Champions, Atalanta, Inter, Milan et la Roma sont en lice, et puis il y a le maintien, on va y revenir après.
Tous les matchs avec un enjeu, c'est demain soir à 20h30. Les autres où il y avait rien à jouer, on était déjà joué aujourd'hui, on va être joué demain l'après-midi.
Voilà, pour le maintien, il y a le Genoa, l'Empoli, Udinese et la Fiorentina aussi.
Oui, la Fiorentina, c'est les miracles, on peut dire, de Montella, qui a pris cette équipe qui était dixième. Et en sept matchs, il a fait six défaites. Il a perdu même la demi-finale des Coupes d'Italie. Aujourd'hui, 16e dans la zone rouge.
C'est confrontation directe. C'est incroyable. Genoa.
Si, c'est confrontation directe Fiorentina-Genoa. Il faudrait vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que la Fiorentina perd. Elle doit perdre déjà à domicile face au Genoa. Empoli doit gagner à Milan face à l'Inter. Pas impossible, attention, parce que l'Empoli c'est en très très bonne condition et l'Inter c'est plein de doutes.
Alors,
et des
l'Inter
des
qui joue la Champions et Empoli qui joue son maintien.
Oui, voilà. Et c'est les gros matchs de demain. Pour moi, c'est vraiment le match le plus intéressant où il y a plein d'enjeux et où il y a vraiment deux bandes de touches qui brûlent. Celui de Spalletti aujourd'hui est presque froide, autant elle a brûlé et on sait bien que son avenir ça va être loin des Milan. Mais c'est les matchs plus intéressants et encore une fois, on va voir quels vont être les choix de Spalletti. Il va continuer à faire l'alternance entre Lautaro Martinez et Icardi. Demain, ça devrait être Icardi titulaire. À Naples, c'était Lautaro. Face au Chievo avant, c'était Icardi. On comprend pas qu'est-ce qu'est en train de faire Luciano Spalletti, mais il risque vraiment l'Inter de ne pas gagner ces matchs, parce que la situation, comme j'ai dit, c'est pas simple, à niveau ambiance, à niveau vestiaire, à niveau banque de touche. C'est pas, ça fait un mois et demi, presque deux mois, que Spalletti sait déjà qu'il sera viré à la fin de la saison.
Et qui va le remplacer alors au final?
Antonio Conte. Ça, c'est sûr à certains, il n'y a pas de doute, à lui-même, pas officiellement, mais à confirmer quand même que l'accord est fait. Je pense qu'à la fin du match, Spalletti va confirmer que probablement il va partir, ou le club va confirmer le départ de Spalletti. Et la semaine prochaine, on saura que Antonio Conte sera le prochain entraîneur de l'Inter. Faut voir si il aura un club en Ligue des Champions ou en Ligue Europa.
Ok. On en est où avec la Juve et Simone là?
Et attends, pour finir, Conte a déjà commencé son mercato, on peut dire. Il y a certains noms qui reviennent très fort. Edin Dzeko, selon mes informations, c'est déjà fait.
À l'Inter?
Ouais, il a déjà donné son accord. Il faudra négocier avec la Roma. Mais la Roma, il faut voir qui va prendre comme directeur sportif. Cette semaine, Petra qui a démissionné.
Combien ils le vendront, ce joueur, tu penses?
C'est quoi, encore un an des contrats? On parle d'une dizaine de millions environ.
Tu veux dire que ce serait pas un bon joueur pour le PSG, ça, sans déconner?
Il a été proposé. Il a été proposé.
Ils ont dit
non,
bien sûr.
Antéron,
on s'en fout, c'est un bon joueur pour être
n'était pas si chaud et apparemment c'est une piste qui a rapidement.
Après, faut qu'il veuille être doubleur aussi, il y a ça aussi. Mais...
Ah c'est ça, ouais. Oui, parce que tu le mets pas à la place de Cavani.
Les problèmes, c'est qu'à l'intérieur, il est pas sûr d'être attaquant numéro un. Déjà, il y a Lautaro, on parle de faire jouer les deux ensemble, mais Antonio Conte, apparemment. Il a demandé Romelu Lukaku comme numéro 9 titulaire de son prochain Inter. L'autre joueur suivi par l'Inter, sur lequel les négociations très avancées, c'est Barella, les milieux de terrain de Cagliari, dont on parle très bien en Italie, qui joue aussi titulaire en sélection italienne et qui est considéré une des meilleures jeunes italiennes d'avenir.
Comment tu le sens l'Inter l'année prochaine là du coup là?
Avec Conte, ça peut être très intéressant, surtout en championnat. Et après, il faut voir. Pour moi, la vraie question pour la saison prochaine,
ça dépend
de
la Juve. Non, et ça dépend s'ils vont en Champions aussi. L'Inter, ça change beaucoup de choses, non? Tu penses que s'ils y vont pas, Conte y va quand même?
Oui, parce que l'Inter, quand même, cette année, va terminer son période de contrôle de l'UEFA sous fair play financier. C'est-à-dire, il aura plus de dettes, il aura plus d'obligations. Bien sûr, il doit toujours avoir les contrôles de ses dépenses, des achats. Mais c'est une année où l'Inter peut vraiment investir sur des jeunes aussi, comme Barella. On parle beaucoup de Chiesa aussi. Je pense qu'il y aura un gros coup de l'Inter, sur un jeune italien. Et après, il y aura un mercato quand même intelligent. Je crois aussi que ça va être le départ de Mauro Icardi et on verra quel club se positionnera sur lui. Aujourd'hui, c'est pas simple pour Icardi. C'est pour ça que Lukaku,
il va aller où lui alors du coup?
Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Sincèrement, il n'y a pas de clubs qui sont positionnés.
Alors, tu sais, on parle souvent de communication pour les clubs, mais lui, ça n'a pas dû l'aider non plus, sa communication cette saison.
T'es catastrophique.
Un club.
C'est ça. Mais là, il va m'attirer des soucis.
T'as une communication officielle qui sait, je veux rester à l'Inter, il l'a fait avec ses messages, etc. Et après, il y a une communication non officielle avec son agent, qui est sa femme, qui a semé un peu de problèmes, qui a créé un peu de problèmes dans les vestiaires.
Au final, ils ont fini par poser à poil sur Instagram pour essayer de résoudre.
Voilà, pour chercher de résoudre tout ça, ils ont posé presque à poil sur Instagram. Et donc aujourd'hui, Icardi continue à dire « je veux rester », l'impression c'est que c'est pour faire tomber la faute de départ sur le club, qui quand même, selon moi, pour ce que j'ai vu toute la saison, est presque été obligé de prendre des solutions, de chercher des solutions.
Mais il peut pas rester en Italie.
Pour moi, non. Mais là aussi, l'Inter, ça dépend beaucoup de la Juve. Je le dis à niveau des résultats, et aussi à niveau de mercato. Si, comment ça semble, ces soirs, mais depuis 2-3 jours, la seule piste qui reste vraiment forte pour le monde de touche de la Juve, c'est Maurizio Sarri. Attention, parce que Maurizio Sarri, dans sa poche, revient de Chelsea avec un numéro 9. Oui. Qui va avoir une place? Je ne dis pas titulaire à la Juve. Mais si Sarri revient à la Juve, Higuain reste.
Il revient à la Juve.
Ah, il revient à la Juve.
Chelsea va pas payer l'option d'achat. Higuain, c'est un des joueurs fétiches de Maurizio Sarri. Et.
Mais il le nourrit bien, ça se voit, ouais.
C'est Mandzukic qui devrait partir.
Et Mandzukic,
il est où? Il y a un piste en Italie, on parle beaucoup d'une piste Borussia Dortmund et aussi des offres de la Chine. Mais Mandzukic vient de prolonger pour être vendu mieux. Donc, on sait très bien que pour Mandzukic, ça sent la fin à la Juve. Ouais. Mais ça dépend beaucoup. J'ai l'impression que pour l'avenir d'Icardi, qui est pisté fort de la Juve depuis un an, je pense que ce que se passe sur le banc de touche de la Juve va beaucoup être
Mais Simone, t'imagines s'il passe de l'Inter à la Juve après ce qu'il a fait au supporter de l'Inter, c'est il peut plus remettre Icardi.
Écoute, je pense qu'il y aura une révolution.
Simone, Higuain et Cristiano Ronaldo ensemble,
c'est une belle question. Si tu donnes les clés de camion à Maurizio Sarri a bien le droit de dire je veux garder Higuain. Après, ça dépend comment Higuain arrive. Il arrivera pas avec toute l'humilité de se mettre au service de Cristiano aujourd'hui pour la saison qu'il fait Higuain entre Milan et Chelsea.
Et attends,
je pense qu'il y aura pas des grands clubs qui vont se positionner.
Et attends,
sur
lui. Et moi j'ai une autre
être numéro 2 entre guillemets ou 3 à la Juve. Ouais, c'est quand même pas une mauvaise solution.
Ouais, je pense qu'on a la même, mais franchement, moi quand je vois le management de Sarri, notamment cette saison à Chelsea avec les stars du club, parce qu'il a mis des taquets à tout le monde.
Oh oui.
Hasard, même Kanté, tu disais le mec, il est irréprochable au moment machin, et il se pose pas des questions. Alors, en Italie pour Ronaldo,
moi,
ça aussi.
Oui. Et les supporters de la Juve, je peux te dire que plus de la moitié, mais presque tous, sont déprimés devant les
informations. Ah ouais, à ce
moment-là? Mais Sarri, c'est le mec qui, la saison dernière, arrive au Juventus Stadium, et sur le bus, il fait les doigts d'honneur supporter de la Juve.
C'est un match,
c'est un match titre.
Le but,
il est énorme.
Et là, je t'ai dit, la Juve.
Et ils vont le chercher, ok.
Et la Juve va chercher Sarri. Maurizio Sarri, c'est, la Juve, il a un certain style, à niveau des communications, des entraîneurs.
Bah, surtout
Sarri,
maintenant, avec le nouveau projet, là.
Sarri, c'est
le logo, le machin, la trophée.
Voilà. La communication, regardez les commentaires qu'on a fait sur, pour Transversal, sur la communication de la Juve.
Non, mais le look, et tout,
et l'imagine de la Juve comment se vendent à l'étranger. Maurizio Sarri avec
de moi qui faisait des fromages, c'est au Moyen Âge là.
Ouais,
mais
non,
mais il a raison, on en arrose.
Tu te souviens, un anglais, ça fonctionnait. Un anglais, ça fonctionnait parce que je pense qu'on ne sait pas beaucoup des gros mots. Ces conférences de presse en italien avec
je vais te dire un truc qui pourrait paraître anecdotique. Mais ne serait-ce que sa tenue vestimentaire.
Mais c'est ce qu'on disait, le look. Ah ouais.
Mais bien sûr.
Il est souvent en survêtement. Mais l'entraîneur de la Juve, il peut pas être en survêtement.
Imaginez.
C'est le costume.
Voilà. Moi, je pense à l'entraîneur de la Juve, un survêt, comme ça.
Je pense que
l'avocat Agnelli, en italien, on dit, si révolterait ben la tombe. Elle va se retourner.
Dans sa tombe.
Dans sa tombe. Mais Sarri, c'est aussi quelqu'un qui fait un jeu très différent de ce qu'on a vu sur ces dernières années à la Juve, de Conte, d'Allegri, ça peut être vraiment quelque chose de coupure totale avec les styles de la Juve d'aujourd'hui. Peut-être un changement des styles un peu plus européenne. Si les présidents de la Juve, Agnelli, après avoir cherché n'importe comment de faire venir Guardiola et avoir eu plusieurs refus, va sur Sarri, c'est parce que vraiment il veut changer quelque chose.
Il y aurait pas petit Jorginho.
Moi, je vais être très curieux de voir Sarri dans la saison prochaine.
Il y aurait pas Jorginho aussi.
Jorginho, dans les dernières déclarations avant match, les Media Day de l'UEFA pour la finale de Europa League, il a pas fermé la porte à son avenir éventuel, mais je pense que
c'est son
s'il doit faire choisir un, il va rempatrier Higuain.
Kevin, alors là on parlait de l'aspect, on va dire, un peu superficiel, un peu de la forme. Parlons un peu du fond aussi. Toi, t'as commenté certains matchs de Chelsea cette saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Sarri? Même si c'est difficile de comparer, c'est pas le même championnat, c'est pas le même enjeu, c'est pas les mêmes joueurs, etc. Mais
après, moi, Sarri, j'aimais beaucoup à Naples. Mais à Naples, il avait des joueurs, un joueur que je connais bien, même personnellement, c'est Dries Mertens. Il avait Insigne, il avait des joueurs comme ça voilà, des joueurs vraiment.
Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, c'est des joueurs qui peuvent faire les jeux, hein. C'est-à-dire.
Oui, mais je veux dire, on avait l'impression qu'à Chelsea, comme t'as dit, et on a l'impression que ce sera la même chose avec la Juve. On a l'impression que c'est pas forcément l'entraîneur qu'il fallait pour ce groupe de joueurs, tu vois.
D'accord.
Et on a l'impression que le casting était raté parce que ses idées. Mais moi, je suis désolé, N'Golo Kanté. Milieu offensif droit. Non, moi je,
Il a démonté. Mais tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il a quand même défoncé en conf de presse Kanté en disant, il faut qu'il soit plus décisif devant, faut qu'il prenne plus de responsabilités.
Tu vois ce que je veux dire. Et là, ça veut dire qu'il a ce côté borné.
Enfin, il a pas défoncé.
Non, mais il a ce côté borné qu'ont certains entraîneurs. Parce que N'Golo Kanté, je l'adore, il est exceptionnel, mais c'est tout sauf un milieu offensif droit. Et en plus, ce que lui demandait ce que lui demandait vraiment Sarri pour avoir, comme tu dis, commenté beaucoup de matchs, c'est vraiment de plonger dans le dos, quasiment de jouer ailier. Et c'est pas possible. Donc il a un côté borné, attention avec Ronaldo.
Est-ce qu'il a fait comme à Naples, à savoir jouer avec, 12, 13 joueurs maximum sur l'ensemble de la saison?
Bah, il l'a fait parce qu'il a surtout fait tourner en Europa League. Mais
est-ce qu'il a... il a fait beaucoup tourner en Europa League, ça oui.
Ouais, mais en championnat, en championnat.
Non, il a son ossature quoi.
Ouais, il a joué souvent avec son ossature, mais
c'est un mec.
C'est une question qui s'est posée.
À Naples, De Laurentiis lui en achetait des joueurs qu'il voulait et tout machin. Au final, il jouait jamais.
Mais regarde Sarri avec un gars comme Hazard. Hazard te dit objectivement et très, on va dire calmement, que lui, il aime pas faire des efforts. Lui, les abdos, c'est pas pour lui. Donc c'est pas un gars qui aime beaucoup faire de kilomètres sur le terrain.
Cristiano les adore les abdos donc.
Oui, non, c'est ça. Mais d'accord. Mais je veux dire, Sarri c'est quand même des gens normalement qui ont beaucoup de mobilité, qui font énormément d'efforts. En tout cas avec Hazard, bon ça a marché parce qu'Hazard, bon c'est un peu le petit prince là-bas, il faisait un peu ce qu'il voulait, mais il a quand même ce tempérament, Sarri, à être quelqu'un d'assez borné, d'assez inflexible.
Mais bien sûr.
Et je suis pas sûr que, alors si ça passe avec Ronaldo ça passe, mais
Et ben on aura la réponse en tout cas dans les très bientôt là.
Oui.
Ils attendent quand la réponse du prochain entraîneur la Juve?
Ben on attend la fin de la saison et après on verra. On parle aussi attention la semaine après la finale de Ligue des Champions parce que on attend aussi de voir quel va être l'avenir de Pochettino.
Ouais.
Deux choses encore sur la journée de demain. Dernier match en tant que joueur de la Roma de Daniele De Rossi
à Boca.
Donc on verra, mais quand même il va avoir beaucoup d'émotions après l'adieu de Totti. C'est un peu l'autre symbole de la Roma qui donne l'adieu. Et attention au match de Milan qui joue encore une place en Ligue des Champions. Ce soir, une petite cite très proche de Milan, quand même qui donne beaucoup d'infos de Milan, parlait d'une départ de Leonardo et a même évoqué un retour pour l'instant un peu fantasieux au Paris Saint-Germain, mais c'est vrai la situation de Leonardo au Milan c'est très compliqué.
Pourquoi?
Parce qu'on lui demande
Paris qui se barre, tiens, c'est fait.
Alors, on lui demande de faire des choses, c'est-à-dire de choisir de faire une équipe des jeunes modèle Lille, modèle à un certain moment aussi Arsenal. L'idée c'est faire une équipe Milan.
C'est marrant, c'est peut-être un mec de Lille qui va le remplacer donc.
Peut-être, c'est pas un hasard. Lui, par contre, déjà, il veut pas qu'on lui impose les choix, certains choix. Quand lui, c'est l'homme qui aurait dû avoir tous les contrôles de la partie sportive. Il aime pas trop avoir quelqu'un qui lui impose des choix quand c'est lui qui doit les faire. Et surtout, il voit pas Milan changer encore plus de dimension en devenant un club qui doit prendre des jeunes pour les former et les revendre pour des raisons économiques. Donc, je pense qu'il se sent pas libre de faire son travail. Et s'il va démissionner, comment ça semble, je trouve que Leonardo, je comprends parce que c'est pas ce qu'il est allé faire à Milan. Il était allé pour rebâtir le club. On lui demande de le redimensionner et c'est pas ce qu'il voulait faire.
Dans quelques instants, David Lortolari sera avec nous. Finale de Coupe d'Allemagne entre l'Eintracht et le Bayern. Tu restes avec nous, Simone?
Oui, pourquoi pas?
Bah, pourquoi? Parce que
j'aime bien.
Bah, voilà, tu restes,
David. Alors. Tiens, il y a un mec qui a laissé un message au 32-16 pour toi. C'était pour toi. Voilà.
Hein? Ciao, Chris. Voilà.
Ciao. Chris et tout, l'intimate. Allez, l'after revient dans quelques instants avec l'Orto. On revient sur la finale de la Coupe d'Allemagne, la DFB Pokal. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Il va nous expliquer ça, l'Orto.
RMC, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Kevin Diaz, Jonathan Macardi, Anthony Quintela, Simone Rovira est resté avec nous et il nous rejoint, David Lortolari, parce qu'il y avait la finale de la Coupe d'Allemagne cet après-midi entre le RB Leipzig et le Bayern. Je dis l'Eintracht alors, je sais pas pourquoi, c'était le tenant du titre, peut-être c'est pour ça. Il est là mon Lorto?
Allô Freunde, salut messieurs.
Ça va,
salut
toi?
Ciao.
Impeccable, super match encore ce soir. Belle fin de saison pour l'Allemagne.
Victoire 3-0 hein, du Bayern dans cette finale de Coupe d'Allemagne. Alors raconte-nous, il paraît qu'il y a plein de choses à raconter de, sur ce match.
Ah ben, il y a plein de choses à raconter. Alors, dans l'ordre, Lewandowski, homme du match, ça c'est factuel. Deux buts ce soir, très costaud, l'attaquant polonais du Bayern qui confirme, qui a confirmé sur un match, sur une finale, pourquoi il avait été le meilleur buteur du championnat encore cette saison. Je crois qu'il a été dans l'histoire déjà quatre fois champion, quatre fois meilleur buteur en Allemagne, et il a confirmé ce statut ce soir. Kingsley Coman a marqué le troisième but pour le Bayern, donc ça c'est bien pour la colonie, la cohorte française qui s'est installée en Bavière et qu'on va retrouver aussi l'an prochain avec Lucas Hernandez, avec Benjamin Pavard qui arrive. Et puis, alors, si on reste sur les individualités ce soir, parce que ce 3-0 est un peu trompeur, il y a eu longtemps 1-0 pour le Bayern avant que ça ne se décante en fin de match. Il y en a un, messieurs, qui a tué le game ce soir, c'est Manuel Neuer, qui revenait alors qu'il a été absent pendant des semaines et des semaines, suppléé par son sa doublure. Ulreich, il est revenu ce soir en finale et alors il a écœuré Ter Stegen pour l'équipe d'Allemagne. Il a écœuré aussi les attaquants du RB Leipzig parce qu'il a été monstrueux. Manuel Neuer, il a été décisif au début du match et au début de la deuxième période, et ça a suffi quelque part pour faire basculer la balance du côté Bayern. 19e coupe dans l'histoire du Bayern, coupe nationale.
C'est un record.
12e doublé championnat et coupe. Ça c'est sympathique. Et puis les deux légendes qui s'en vont ce soir, et notamment Franck Ribéry, il y a aussi Arjen Robben bien sûr, qui sont rentrés en fin de match tous les deux. Franck Ribéry disputait ce soir sa 8e finale de Coupe d'Allemagne. Et à l'heure où on parle, évidemment, c'est la fête, ils sont encore à Berlin hein, bien sûr les Bavarois, mais c'est la fête pour tous les sympathisants du Bayern, et aussi, et j'en terminerai par là mon monologue, mon tunnel interminable pour Niko Kovac, évidemment l'entraîneur qui sort renforcé de cette victoire. Comment mettre dehors un entraîneur qui vient de réussir le doublé en Allemagne?
Alors c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que du coup il est toujours menacé ou pas? Alors, il avait été conforté, on va dire, cette semaine par Rummenigge. Souvent c'est mauvais signe.
Oui, alors il y a des sources qui divergent. Factuellement, Karl-Heinz Rummenigge avant-hier, a expliqué que il n'avait jamais été question de dégager avant la fin de son contrat 2021 Niko Kovac. Karl-Heinz Rummenigge, la mine un peu grave quand même, l'a répété ce soir à la télévision publique allemande en disant je suis un peu étonné toutes ces discussions parce que il n'a jamais été question chez nous au Bayern que de remettre en question le mandat de Niko Kovac. Mais je disais les sources divergent parce que il est quand même assez c'est ébruité, c'est connu en Allemagne que au Bayern tout est ouvert dans cette intersaison qui s'ouvre, non seulement pour les transferts, et ça le Bayern est actif là-dessus, on le sait, avec notamment le dossier Leroy Sané qui est en cours, qui n'est pas finalisé, mais aussi pour l'entraîneur. Je veux dire, on va pas se mentir, il y a le discours officiel d'un côté. Il y a effectivement une communication efficace qui consiste à dire on ne dégagera pas Niko Kovac cet été, mais le Bayern s'est quand même renseigné, a quand même avancé ses billes sur certains dossiers.
Comme qui par exemple?
Il y a Ralf Rangnick notamment qui s'arrête, qui laisse sa place au jeune Nagelsmann avec le RB Leipzig et qui n'est pas du tout joisse à l'idée de ne faire que directeur sportif dans le futur proche. Et Ralf Rangnick est très apprécié par le Bayern, il avait été approché déjà en 2016-2017. Donc ça c'est quelque chose qui est une possibilité, il faudra pas s'étonner si ça arrivait sous peu. Et puis quelques autres noms aussi. Alors en Allemagne, j'ai discuté avec des confrères influents autour du Bayern cet après-midi. On est étonné en Allemagne de la prolongation de contrat de Thomas Tuchel. Ah, on se dit, si Tuchel prolonge, parce qu'on est très respectueux des règles, hein, vous le savez en Allemagne, si Tuchel prolonge, ça veut dire qu'il n'a pas d'avenir à court terme en Allemagne. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Mais moi, je répète, j'insiste sur ces sources divergentes. On m'a dit aussi, de sources très bien informées à l'intérieur du Bayern, que cet été, tout était ouvert. Donc, entre la communication officielle, qui est claire, on veut garder Kovac, et ce qui va réellement se passer, moi je resterai prudent.
D'accord.
Eh bien,
tout reste ouvert visiblement aussi en Allemagne alors.
Oui, sauf que quand même, alors on disait que la victoire en coupe ne serait pas forcément un atout supplémentaire pour Kovac. Ce soir, il a été très fort, l'entraîneur du Bayern, notamment aussi, et ça compte, messieurs, dans sa communication avec les supporters.
Bien sûr, ouais.
De mémoire de suiveurs du Bayern, on n'avait jamais vécu, et ça s'est produit ce soir, un entraîneur, après la finale de coupe, qui va avec le mégaphone au pied du COP des ultras du Bayern pour communiquer avec eux, pour les remercier. C'est ce qu'a fait Kovac ce soir. C'était pas en forme d'adieu du tout, hein. C'était pour montrer son aisance. Il a été très fort cette saison là-dessus, son aisance à communiquer, à être toujours dans le calme, dans la maîtrise, dans le contrôle. Et ça, je pense que quand même, ça peut aussi faire tilt dans l'esprit des dirigeants du Bayern. C'est peut-être un peu contradictoire, David, le tableau que je vous dresse ce soir, mais il a quand même marqué des points ce soir, Kovac, alors qu'on pensait que ce match n'allait pas forcément être utile à son crédit.
Et David, pour l'avoir vécu un peu dans un vestiaire, le fait que, alors, on connaît un peu Robben notamment, le fait que Robben et Ribéry arrête. Est-ce que ça pourrait pas faciliter quand même le travail de Kovac l'an dernier, d'avoir quand même deux joueurs importants avec une histoire exceptionnelle avec ce club qui arrête, et donc des joueurs qui seront forcément moins, peut-être des plus jeunes qui arriveront pour les mettre sur le banc, ce sera un peu plus facile, peut-être un peu plus de cohésion dans ce vestiaire ou pas forcément.
Je prolonge la question de Kevin. Est-ce qu'il est prévu que Robben et Ribéry aient un rôle dans la vie du club ou pas?
Alors, ça n'est pas prévu à court terme pour Robben, Arjen Robben, le Néerlandais qui quitte le club. Il n'est pas question de reconversion, au moins à court et moyen terme. Pour Franck Ribéry, en revanche, une place lui est réservée bien au chaud dès qu'il veut pour revenir, soit comme ambassadeur, soit comme entraîneur chez les jeunes. Et ça, à demi mot, Uli Hoeneß l'a confirmé. Donc ça, c'est pour le court terme, mais pas la saison prochaine, parce que Ribéry veut jouer encore un peu. Mais c'est vrai, c'est important ce que tu disais, Kevin, sur l'équilibre du vestiaire. Kovac a réussi à bien composer après la crise de l'automne avec ces joueurs qui sont très influents et qui ont leur mot à dire. Vous avez cité Ribéry et Robben. On peut ajouter évidemment des Müller, des Boateng, des Hummels et peut-être deux, trois autres. Ces joueurs-là sont écoutés évidemment au Bayern, et il a mis du temps avant de maîtriser ce vestiaire-là. Mais il a réussi à le maîtriser en fin de saison, et les accolades qui ont été faites à Kovac par ses légendes ce soir n'étaient pas des accolades feintes. C'était des choses qui étaient très honnêtes. Donc, à la limite, leur départ et le fait que l'effectif se rajeunit va pas forcément être très utile pour Kovac. Je veux dire, son travail sera facilité, certes, mais il avait déjà réussi à maîtriser ce vestiaire un peu compliqué, là.
Merci beaucoup David, bonne soirée, à très vite mon David.
Merci à vous.
Bisous, bonne nuit, ciao. Ciao. Je donne quelques infos du jour également, actu du jour. On savait que Caen est relégué en Ligue 2 hier soir. Le club qui a annoncé aujourd'hui la fin de la collaboration avec Fabien Mercadal d'un commun accord. Voilà, Fabien Mercadal s'en va. Pour Roland Courbis, il stat encore. Voilà, il dit qu'il est attaché au club.
On en parlera longuement une autre demain, quand on aura le temps, de Roland.
Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur Nabil Fekir et sur son avenir sur OLTV. Je cite le président de l'OL: on se bagarre pour essayer de prendre le moins de joueurs possible. J'ai dit qu'il n'y en aurait pas plus de deux. Nabil est en dehors car il a déjà un bon de sortie. On va se renforcer, c'est certain. On va en discuter très posément avec Juninho et Silvinho.
Eh ben, je suis hyper curieux de voir, après la saison qu'il a fait, où Nabil Fekir va pouvoir signer. Parce qu'il a fait une saison vraiment terne. Tu l'as senti que physiquement il n'était pas là, et de mémoire j'ai juste un match où il est à son niveau, c'est le match contre Toulouse où que Lyon gagne 5-0. Le reste du temps t'as senti que vraiment c'était plus le même joueur, et je suis très curieux de voir quel genre d'offre il va avoir.
Quelles sont ses envies à lui, mais il y a bien des clubs moyens en Angleterre qui peuvent largement.
Mais est-ce que lui a envie?
Voilà, c'est ça. Justement, et puis en toute façon Nabil Fekir, faut pas qu'il aille dans un club moyen anglais. Voilà. Il faut qu'il aille dans un club qui est le top dans son championnat, c'est-à-dire un joueur qui est fait par exemple pour le Bayern. Je sais pas s'il ira au Bayern ou à Dortmund. Je veux dire, tu vois des clubs comme au Portugal, comme à France, voilà, qui sont dominateurs.
Qui joue avec un 10 surtout.
Voilà.
Un club qui joue avec un 10.
C'est difficile pour lui d'aller jouer même à Tottenham, dans un club où
l'entraîneur avait un numéro 10, un meneur de jeu axial.
Puisqu'on est à l'OL, sachez que, en principe, Batic devrait rester. Lui qui était l'adjoint de Genesio, il est en fin de contrat également. Il pourra rester comme adjoint de Silvinho dans le staff de l'OL. Autre information également, Florent Balmont prolonge d'une année supplémentaire à Dijon, alors que le club se maintient ou pas. Vous savez que Dijon est en barrage face à Lens pour se maintenir en Ligue 1. 39 ans, il a signé pour un an.
Il a les cannes encore. Hein. Ouais. Il aura fait du bien. Hein.
À Rennes, en revanche, il y en a un qui s'arrête, c'est Danzé. Il a eu pas mal de blessures cette saison, à bientôt 33 ans. Il devrait rester au club.
Hein, l'arme de Jérôme Thomas.
Ouais. Les gens, il a fait qu'un club, hein, la Danzé. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre
Des Rossi de Rennes.
Ouais, exactement.
Ouais, un peu de ça. Tiens, à Rennes, justement, Julien Stéphan, qui avait laissé planer un doute sur sa continuité la saison prochaine, il a expliqué que c'était le moment, de faire le bilan. On va l'écouter, l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan.
On va faire, nous, en interne, un bilan de fonctionnement avec le président, avec les dirigeants, pour voir dans quelle mesure on sera capable de continuer le projet et d'essayer encore de l'améliorer.
Voilà, c'est assez, c'est pas très clair au final. Hein. Voilà, c'est le moment de faire le bilan.
Rien n'est clair dans le football français.
C'est vrai que c'est compliqué.
C'est quand même dingue après la saison qu'ils viennent de faire.
D'ailleurs, on vous a préparé un petit papier sur rmcsport.fr. On est seulement au mois de mai. On est, il y a déjà énormément de clubs qui sont susceptibles de changer d'entraîneur ou qui vont changer d'entraîneur. Hein. T'as Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Metz, Brest, c'est sûr. Bon, il y avait l'interrogation au PSG avec les dernières rumeurs. Il y a Nîmes, il y a Rennes, il y a Nantes ou Amiens où c'est un peu indécis également, sachant qu'Amiens ça va se faire aussi.
Metz, c'est on peut le mettre un petit peu à part comme cas.
Oui, il reste en tant que dirigeant, mais voilà, il y a quand même du.
C'est la faute à pas de chance. Ouais. Et j'espère qu'on lui souhaite le meilleur.
Saint-Maximin n'écarte pas un départ du côté de Nice. Alors on parlait tout à l'heure des joueurs qui étaient écartés, enfin du moins qui n'ont pas été appelés dans l'équipe espoir, l'équipe de France espoir. Il a déclaré :« Je ne sais pas encore », dit-il concernant son avenir. « Je vais bien discuter avec mon entourage pour savoir ce qui sera le mieux. Des choses sont avancées. La tendance est plus à l'étranger, mais comme pour l'équipe de France espoir, j'aurai le club que je mérite », dit-il. Voilà.
Je pense que Vieira, il n'est pas contre un départ non plus.
Je suis bon, toi.
Non, mais il a parfois des comportements hyper individualistes qui ont pénalisé l'OGC Nice et qui ont pénalisé aussi Alain de Saint-Maximin. Non,
mais quand il dit le club que je mérite, il dit ça dans quel sens?
Je sais pas. Tu lui demanderas, d'accord?
Moi, je le vois bien en Allemagne, Saint-Maximin.
Tiens, et vous savez qu'il y a la Coupe du Monde féminine du 7 juin au 7 juillet prochain, qui sera en France et qui sera suivie sur RMC Sport. Demain, il faut aller voter. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Alex Morgan, la joueuse états-unienne, qui a fait la une du Time, et qui a déclaré que si les États-Unis tenant du titre remportaient de nouveau la Coupe du Monde, eh bien, elle n'irait pas à la Maison Blanche en signe de protestation contre Donald Trump. Voilà, elle a déclaré. Il y a un discours qu'on a entendu des centaines de fois à propos des sportifs qui est limitez-vous au sport, mais on est bien plus que ça. Oui. Je ne suis pas favorable à beaucoup des choses que l'administration actuelle défend. Elle est mariée avec un international mexicain et elle a pas aimé certaines des déclarations.
Il y a plein d'équipes. Il y a l'équipe de NFL qui a gagné le championnat pareil, qui avait refusé d'aller à la Maison Blanche.
Merci beaucoup, merci Kevin, merci Jonathan, merci Anthony, merci Simone,
merci Nicolas,
à toutes et à tous, Jérôme Thomas, Alban Azaïs, bien entendu toutes les équipes techniques et éditoriales. Bisous, ciao.
RMC. L'After.